Le cambrioleur par Rodolphe Bringer. Monsieur Pétourlin, rentier à Montélimar et propriétaire de la petite villa gréco-normande qui s'érige sur la route de Rochemaure, ne se sentit pas de joie en lisant la lettre que le facteur venait de lui remettre. C'était sa sœur, cette bonne Gertrude, qui lui annonçait l'arrivée pour ce matin même d'un jeune homme charmant qui ferait un mari parfait pour Fanny. Car il faut vous dire que M. Pétourlin, rentier à Montélimar et veuf depuis un si grand nombre d'années qu'il arrivait difficilement à se souvenir de sa chère et regrettée défunte, possédait une fille unique, répondant au nom patronymique de Fanny et qui était bien la plus jolie fille qui se puisse voir. Je ne vous ferai pas son portrait, car il vous est loisible d'aller le contempler tout à votre aise dans les vitrines de M. Lang, le génial photographe montilien. Pour le moral, c'était une charmante enfant, pourvue de toutes les qualités et même de quelques autres, et dont on aurait demandé 500 fois la main si son monstre de père n'eût répété à tout venant qu'il ne donnerait pas un sou de dot à sa fille, estimant que Fanny était par elle-même un véritable trésor. Mais les jeunes gens de Montélimar et des lieux circonvoisins estimaient qu'un trésor de cette sorte ne s'escompte dans aucune caisse publique, et que les modistes et couturières présentent leurs factures aussi bien aux personnes remplies de qualité qu'aux autres. Je ne déciderai pas si les jeunes gens de Montélimar et des environs avaient tort ou raison. Quoi qu'il en soit, bien qu'elle eût près de 23 ans, Mademoiselle Fanny n'était pas encore mariée, et le bon M. Pétourlin commençait à s'inquiéter de cet état de choses quand il reçut la lettre de son excellente sœur. Mademoiselle Gertrude annonçait donc à son frère qu'elle avait trouvé un mari pour Fanny. Et quel mari ! Henri Deveau, ainsi se prénommait le fiancé annoncé, était possesseur d'une 30 000 livres de rente et d'un caractère enclin à la plaisanterie. Qu'on se le dise. C'était une façon de farceur, aux blagues impayables, qui faisait la joie de Valence, son pays natal. On était averti. Au demeurant, il était tombé amoureux de Fanny. Sans se faire d'ailleurs le moindre mal, rien qu'en contemplant une photographie d'Icelle, admirée dans le salon de Mademoiselle Gertrude. Aussitôt, il avait déclaré que Mademoiselle Fanny serait sa femme. Et comme bonne personne, Gertrude avait assuré qu'elle n'avait pas un sou de dot, mais seulement de grosses espérances, Henri Deveau avait pirouetté sur ses talons en disant « Je suis assez riche pour deux ». Cette phrase, surtout, ravit le cœur de l'honorable M. Pétourlin. Voilà donc ce que contenait la lettre de Mademoiselle Gertrude, toute heureuse d'avoir pu enfin aussi brillamment assurer le sort de sa nièce bien-aimée. Ah, ce fut un joli branle-bas dans le villa gréco-normande de la route de Rochemaure. Enlever les housses du salon, nettoyer les cadres des tableaux, ratisser les allées du jardin, faire reluire la boule de verre qui ornait le dit jardin, changer l'eau de la pièce d'eau où s'ébattaient 4 menus cyprins, préparer le déjeuner. Surtout, Fanny, n'oublie pas de nous faire un parfait au chocolat, ton triomphe. Monter le plus vieux vin de la cave, que sais-je, les 1000 manœuvres enfin que l'on accomplit en pareille occurrence quand il s'agit d'éblouir un futur gendre millionnaire, même enclin à la plaisanterie. La vieille bonne Mélanie ne savait où donner de la tête, le jardinier était sur les dents, quant à M. Pétourlin et à sa fille, ils étaient littéralement fous. Bref, le désordre fut tel dans la villa cette matinée-là qu'un cambrioleur put y pénétrer sans être vu. Il faut vous dire qu'à cette époque, la ville de Montélimar était désolée par un terrible cambrioleur, homme du meilleur monde d'ailleurs, qui se serait fait un scrupule d'oublier un couteau ou quelques balles de revolver dans l'intérieur de ces braves montiliens, mais qui ne se gênait nullement pour faire, à la fois, les villas les plus opulentes et le désespoir de la police locale. Il ne se passait guère de jour que quelque propriétaire ne fût proprement dévalisé, et le cambrioleur était si habile que les Sherlock Holmes de la Drôme y perdaient leur peine en même temps que leur latin. Ce matin-là, le cambrioleur s'introduisit donc dans la villa gréco-normande de M. Pétourlin, sans doute averti de ce qui s'y passait, et pensant pouvoir y travailler en paix dans le brouhaha de cette demeure où l'on avait d'autres chats à fouetter que de s'occuper de ses faits et gestes. Par malheur, au moment précis où le dit cambrioleur allait se retirer, emportant une ample moisson d'objets de valeur et de bibelots sans prix, il faillit se trouver nez à nez avec ce bon monsieur Pétourlin, et force lui fut de se fourrer dans un placard qui se trouvait par là, tout comme si la villa gréco-normande eût été un deuxième acte de vaudeville. Ce placard, il faut le dire, était l'endroit où l'on serrait les vêtements d'hiver, et par peur des mites, il était abondamment pourvu de camphre, de naphtaline et de poivre, ce qui ne manqua pas d'incommoder le pauvre cambrioleur, tous ses produits chatouillant désagréablement ses narines. Mais, bah, il n'était pas là pour le restant de ses jours, et ce sont là menus inconvénients dont abonde la carrière difficile de cambrioleur, même à Montélimar. Cependant, tout était prêt dans la villa gréco-normande, chacun se trouvait sous les armes. On avait fait venir le parfait au chocolat de chez le pâtissier, mais on n'en dirait pas moins qu'il était signé Fanny. Monsieur Pétourlin avait revêtu sa redingote la plus neuve, et la jeune fille, un petit costume tailleur qui l'habillait à ravir, on attendait, et le fiancé n'arrivait pas. Voici même qu'il était 11h35, et tout le monde vous dira que le train de Valence arrive à Montélimar à 10h43. Or, comme la petite villa gréco-normande se trouve à 10 minutes de la gare, Henri Devaux aurait dû être là, et depuis longtemps. Qu'est-ce que cela voulait dire? Aurait-il manqué le train? Alors tout le travail du matin ne servirait de rien, et ce serait à recommencer. Tout à coup, oh, c'est ici que cela se corse! Tout à coup, M. Pétourlin crut entendre éternuer dans le placard. Non, mais je vous demande un peu, y a-t-il du bon sens à ce qu'un placard éternue, même quand il y a de l'humidité? Vous et moi aurions cru à de la sorcellerie. Mais M. Pétourlin était un esprit positif, qui ne se payait pas de faribole. Il ouvrit le placard et... Pincé ! Fit le cambrioleur en sortant. En voyant cet homme issir de son placard, le brave rentier fut quelque peu estomaqué, comme vous le pensez bien. C'est que notre cambrioleur était vêtu avec une extrême élégance d'un complet jaquette sortant de chez le meilleur faiseur. Il avait un melon idéal et portait même, Dieu me pardonne, une fleur rare à sa boutonnière. Je vous l'ai dit, ce cambrioleur était un véritable gentleman. Et M. Pétourlin, ébahi, se demandait ce qu'un garçon aussi bien mis pouvait bien faire dans son armoire, quand tout à coup, un éclair d'en haut illumina son intellect. Il frappa ses cuisses de claques retentissantes, se tordit dans un rire inextinguible, étrangla d'une joie délirante. « Ah ! Elle est drôle ! Ah ! Elle est bonne ! Fameux ! Fameux ! Je la raconterai ! Cette brave Gertrude m'avait bien averti que vous étiez un farceur, mais tout de même, celle-là !» Et, les yeux embués de larmes, il octait dans les spasmes d'une joie olympienne. Le cambrioleur en était baba. Mais que fût-ce quand il entendit le rentier lui déclarer « Vous êtes arrivé ici comme nous étions tous occupés. Il n'y avait personne pour vous recevoir. Alors vous avez trouvé très spirituel de vous cacher dans ce placard. Ah, pour une bonne farce, c'est une bonne farce. Jamais de ma vie je n'ai tant ri. » Le cambrioleur était intelligent. Il comprit qu'il était l'objet d'un quiproquo, mais somme toute, comme la chose était toute à son avantage, il se garda bien de dissuader le bonhomme. On se mit à table, on déjeuna, on prit le café, on fit le tour du propriétaire. Le cambrioleur anonyme se montra homme du monde et brillant convive. Il fit la cour à la jolie Fanny, fourbissant à son adresse des madrigaux marqués au coin de l'esprit le plus délicat. Fanny était folle et M. Pétourlin, ravi, jurait ses grands dieux que sa fille n'aurait pas d'autre mari et que, s'il le fallait même, il dénouerait les cordons de sa bourse. Bref, ce fut une journée charmante. À toute force, M. Pétourlin voulut accompagner son futur gendre à la gare, et Fanny lui fit promettre de revenir le plus tôt possible. Et le soir même, sans attendre une minute, le bon M. Pétourlin écrivit à sa sœur « Le fiancé que tu nous as adressé est charmant. Nous en raffolons déjà. Fanny déclare qu'elle entrerait dans un couvent si ce mariage ne se faisait pas. Et si drôle, ce farceur! Figure-toi qu'en nous quittant, il a voulu, à toute force, emporter l'argenterie. » « C'est curieux, » pensa la bonne Gertrude en recevant cette lettre. Pourtant, Henri Devaux n'a pas pu aller à Montélimar, attendu qu'il s'est cassé la jambe. Mon frère a dû faire erreur. Hélas, M. Pétourlin s'en aperçut trop tard qu'il avait fait erreur. Que vous dirais-je? Fanny épousa tout de même Henri Devaux dès qu'il fut rétabli. Elle fut heureuse, mais, en elle-même, elle ne put jamais s'empêcher de regretter son cambrioleur. Ici se termine Le cambrioleur de Rodolphe Bringer, enregistré par Christiane Jehanne.